Bonjour à tous, c'est Jérémy Edouard. Chronozone, le temps immédiat.
Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomandé le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Chronozone présente Diomandé le Programme.
Now give me a beat.
Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up.
Depuis Los Angeles,
la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique.
Entre séries cultes et héros éternels. Let's go!
50 ans d'émission, 50 ans d'émotion.
Le petit écran en ligne de mire.
Ou quand les pages de Récréado prennent voix.
DLP, c'est maintenant.
Diomandé le programme.
Toudou, toudou, toudou. DLP vacances. Toudou, toudou. DLP vacances.
En ce lundi 24 avril dernier, heureux 80e anniversaire, maman chérie. Cette émission est la tienne. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones hebdomadaires en moyenne de Zambie et de Corée du Nord, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances pour le bonheur de vraies télémotions et le vivre de télémissions qui souvent se mirent dans la ligne de rire. Le 9 décembre 2000, en succédant à la merveilleuse Sonia Roland, elle devint et est à vie, comme aimait à le dire le guépard Alain Delon, Miss France 2001. Désormais, et depuis plus de 18 ans, cette reine de bonté, marraine caritative de multiples associations, occupe également le devant de la scène audiovisuelle, douée d'un professionnalisme et d'une bonne humeur perpétuelle. Miss Europe 2001 et sociétaire des grosses têtes, la sienne aussi bien faite que bien pleine, la rend habile sur toutes les pistes, y compris sur celles automobiles. Et en actuelle vedette d'M6, elle co-animera prochainement sa hit list.
J'étais vraiment en charge de dossiers sur l'économie sociale et solidaire, la vie associative, des événements culturels.
Élodie Gossuin est notre dossier de la semaine. Si lui et moi fîmes nos débuts télévisuels communément il y a 30 ans, il choisit assez rapidement la voie de l'information, fort de convictions qui participèrent de sa construction. Et lui qui eut la chance d'interviewer quand il avait 9 ans et entouré de son équipe, notre Dorothée nationale, voyagea depuis dans le monde entier pour son métier, parfois sur des théâtres de guerre, souvent fatales. Ancien rédacteur en chef de RMC, il fut également de l'aventure France 24 et BFM TV, ainsi que de celle Guadeloupe la première, entre autres de ses activités. Il est l'actuel directeur adjoint de l'information au pôle Outre-mer de l'excellent groupe France Télévisions. Et avec ses éminents confrères Sylvie Jangoul, patronne du pôle, et Laurent Cortel, directeur de l'information, ouvre les téléspectateurs français à la diversité du petit écran, riche d'une stratégique vision.
Bonjour, c'est Willy Brassiano. Bienvenue dans Diomandé le programme.
Willy Brassiano est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur la carrière d'une jolie Miss Swan, dont le public demeure le plus grand fan, notamment pour les années bonheur dont elle le gratifie depuis plus de 20 ans. Passer un dimanche avec Élodie Gossuin, c'est un peu comme lorsque victorieuse de l'élection Miss France 2001, l'écharpe blanche vous ceint.
Mesdames et messieurs, la première Miss France du troisième millénaire est et ce sera mon dernier mot. Miss Picardie!
Sociétaire des grosses têtes capable de mettre M6 sur son 31, que la fête commence quand apparaît Miss Europe 2001, dont le mot de passe pour le meilleur des réveils est à 100% phénomène.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur RFM dans le meilleur des réveils. Bonjour Elodie.
Salut Albert, bonjour Nico et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur RFM.
Nos plus belles images de cette gagnante d'une élection de Miss nationale, indépendamment de ses larmes de joie au soir de sa victoire, passent par la mise en exergue d'histoires de familles extraordinaires ou quand le Noël extraordinaire de ces dernières illumine la petite lucarne.
Dans Histoire de famille, votre nouveau rendez-vous sur M6, nous reviendrons sur un grand nombre de ces affaires.
Si les inventions et les sports les plus cons du monde ne valaient enquêtes extraordinaires, Téléthon et Dakar méritèrent, eux, votre mise en lumière. Les vacances préférées des Français, passant sans doute par la piste Picardie, dis-moi oui, Elodie, pour une interview au sein de DLP, j'ose demande hardi. et vivent le camping, même sans un chef à l'oreillette, à l'instar du concours Eurovision de la chanson junior, laissant à ses gagnants les yeux pleins de paillettes.
Oh, okay. Our ex Miss France and Miss Europe.
Yes, 20 years ago, I'm a radio host each morning on French radio, RFM.
Comme vous, mes rêves, mes passions, mes espoirs, je les vis intensément, et ce, depuis l'âge de 10 ans.
Alors, elle dit que je suis un, vous répondez à toutes ces questions et à d'autres dans un livre qui paraît chez Michel Lafond, qui s'appelle « Mes rêves, mes passions, mes espoirs ».
Et je suis certain que si de Geneviève de Fontenay, vous êtes la préférée et pas seulement en off, c'est que probablement vous êtes tout le contraire d'une Miss Catastrophe. Ça va mieux en le disant, Elodie. Pour la première fois avec votre dossier, vient de dresser le portrait très cathodique d'une Miss Maman qui, sur Podium ou sur M6, est au summum de la hit list.
On vous reçoit pour parler de ce livre, Miss Maman, le guide de la mère imparfaite aux éditions de La Martinière.
Le Nigeria est à 600 mètres, mais nous n'irons pas plus loin. Trop dangereux, nous sommes à portée de tir.
Bonjour Willy Bratiano.
Bonjour David Diomandé.
Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP.
Écoute, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver quasiment 35 ans après en fait.
Exactement, c'est vrai que ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais pensé à te demander si je prononçais correctement ton nom en disant Bratiano. On est d'accord que je prononce bien, a priori.
Oui, tu le prononces bien.
Il y a combien de noirs italiens?
Écoute, si je compte ma famille, on est une bonne cinquantaine quand
même.
Ah
oui, quand même. On a fait les 400 coups quand on était encore gamin, quasiment. Et aujourd'hui, je dois dire, monsieur l'adjoint à la direction de l'information du pôle Outre-mer de France Télévisions, n'est-il point?
Écoute, c'est vrai que ça fait du chemin depuis cette époque.
Eh bien écoute, on va en parler aujourd'hui si tu en es d'accord.
Avec plaisir.
Alors précisément, Willy, avant de parler de tes actuelles fonctions au sein du pôle Outre-mer de France Télévisions, quels souvenirs conserves-tu de tes 9 années de grands reportages à France 24?
Écoute David, ces années, c'était des années merveilleuses pour moi. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de participer au lancement de France 24 en 2006.
Rien que ça, c'est déjà une belle aventure, hein, être à la jeunesse d'une télévision.
Absolument. L'année d'avant, j'avais participé également au lancement de BFM TV.
D'accord.
Et en 2006, quand j'ai rejoint cette maison France 24, qui est devenue en fait une grande famille pour moi, ça a été des années merveilleuses. J'ai fait, grâce à France 24, 3 fois le tour de la Terre.
C'est extraordinaire.
J'ai découvert de nouvelles cultures. J'ai travaillé avec des confrères d'origines totalement diverses.
Beaucoup de nationalités, forcément.
Absolument. Il y en avait 32 à l'époque quand j'y étais.
C'était déjà un bout du monde, on peut dire.
Absolument. Rien qu'à France 24, c'était la tour de Babel à elle-même. Et quand je dis tour de Babel, en fait, à l'époque, on travaillait en 3 langues, à France 24, en français et en anglais.
At the Gao Airport, we embark for Tessalit, in the extreme north of Mali, near the Algerian border.
Et en arabe.
En arabe, très bien, c'était la 3e langue dite officielle.
Voilà, et depuis peu, France 24 a rajouté également l'espagnol.
D'accord.
Pour moi, c'est là où j'ai appris mon métier de grand reporter. Dans l'inconscient, c'est un journaliste d'expérience et qui a cette capacité de pouvoir s'adapter assez rapidement à son environnement et de pouvoir rapporter les éléments à son public. Et à France 24, j'ai eu cette chance d'aller sur des théâtres un peu compliqués, sur des zones de conflit, pour être en prise avec cette actualité un peu chaude qu'on a entendue et vue ces 15 dernières années.
Et oui, et oui.
Et franchement, ça serait difficile de te résumer ces 9 années.
Bien sûr, forcément. Si tu devais de mémoire te rappeler 1 ou 2 grands reportages qui t'ont particulièrement marqué par leur intensité humaine ou tragédienne, tu penserais à quoi?
Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a une actualité qui me revient assez souvent et que je prends en exemple. C'était un jour à Gaza.
Sur la bande de Gaza, ouais.
Voilà, la bande de Gaza. Donc, encore une énième actualité tragique.
2/3 des Gazaouis ont le statut de réfugiés. Et nombre d'entre eux résident dans les 8 camps créés depuis 1948 par les Nations Unies.
Je fais la connaissance d'un jeune qui avait à l'époque 18 ans.
Israélien ou palestinien ?
Palestinien.
D'accord.
Et quand tu le vois, ce jeune, tu lui donnes à peu près 15-16 ans, parce qu'il était un peu rachitique, pas très bien alimenté, et il avait en réalité 18 ans. Il était assis en fait sur des décombres de sa maison qui venait d'être bombardée. Là, je le vois, je suis donc avec mon guide interprète et je lui dis « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et en plus, à ce moment-là, il prenait son thé. Alors, c'est un peu...
anachronique, quoi. Image ubuesque.
Une image totalement, totalement hallucinante. Au milieu du décombre, il prend son thé. Il me dit « Bah, écoute, ma maison vient d'être bombardée, je n'ai nulle part où aller.
Oh là.
Donc, je suis là en attendant de voir ce que je peux faire après. » Et il me questionne. Il me dit « Mais toi, tu viens d'où ?» Et je lui dis, je viens de la France. Déjà, il avait un peu de mal à comprendre à situer, que noir. Ouais. Non, il situait très bien la France. En revanche, je veux dire qu'il y avait des noirs en France, pour le coup, il avait un peu de mal.
Ah, ok. J'avais pas saisi, d'accord.
À visualiser.
D'accord.
D'ailleurs, beaucoup de gamins en Gaza City pensaient que je venais d'Éthiopie.
Qu'est-ce que ça aurait été s'il avait su que tu t'appelais Braziano?
Quelle histoire. Et donc, moi, je lui dis, je viens de France. Et là, je vois son visage commence à changer.
À s'illuminer, ouais.
S'illuminer, un immense sourire sur son visage. Et il me fait, tu viens de France? Ah ouais? Alors attends, reste là. Et je le vois qui court dans les décombres et il revient avec un t-shirt. Il me montre le t-shirt. En fait, c'est un t-shirt de...
L'équipe de France ? Oh, 98.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons maintenant honorer les médaillés d'or de France 98.
L'équipe de France de football 98 marquée Zidane.
Oh mon
Dieu. Et là, je le vois totalement transformé, illuminé, et il me montre ça. Et il me dit, regarde Zidane, il est bon, il est fort.
Zidane.
Faut bien le garder ce ballon comme le font là 42.
Et reprise par Deschamps. Zidane, on est à 35 mètres du but de Claudio Taffarel.
J'en ai des frissons. On est sur la bande de Gaza, quoi. Le môme a 18 ans.
Exactement. J'en ai eu des frissons à ce moment-là.
C'est des moments comme ça où tu rêverais d'avoir le 06 de Zizou et de lui dire, faut que tu me le signes et que je le lui ramène. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme ça.
Bah voilà, j'en ai eu des frissons et je me disais, mais c'est dommage.
Plus, on sait même pas s'il est encore en vie, le pauvre.
Ah non, je ne sais pas, aucune nouvelle de lui. Tu sais, quand tu vas sur ce genre de terrain, malheureusement, tu y restes le temps qu'il faut rester.
Tu as eu le temps de connaître son prénom?
Écoute, sur le moment, je crois qu'il me l'avait donné, mais très honnêtement, ça fait tellement longtemps.
Et oui, mais quelle belle histoire, n'empêche. Waouh!
C'était une histoire qui, aujourd'hui, tu vois, me prend aux tripes et je sais que je ne l'oublierai jamais.
Avant de passer à la question suivante, je ne puis m'empêcher de te demander, puisqu'on parlait de ce côté tour de Babel, il y avait les langues officielles, mais dis-moi tout de même que tu seras parvenu à leur inculquer quelques notions de créole martiniquais tout de même.
Absolument.
À tous ses collègues.
Mais absolument.
Ma coude, moi on est là-bas, moi les créoles, moi. Hein? Ah oui, pardon, quand je m'énerve, je parle ma langue natale. Votre quoi? Ma langue natale, le créole. Non, bon, allons, à moi les Mayotte, moi il y a Québec. Arrêtez, vous êtes né en Corrèze.
Tu sais, quand il y a eu la grève en 2009 en Guadeloupe,
ouais.
Qui s'est répandu après en Martinique.
Fameux événement de février, ouais.
Voilà, donc j'ai eu l'occasion d'y aller pour couvrir ces événements-là pour France 24 et il y avait des interviews en créole. C'était l'occasion de pouvoir faire passer du créole sur l'antenne.
Tu m'étonnes.
Donc c'est des petits moments comme ça où tu es content de pouvoir apporter ta petite touche.
Mais évidemment, petite touche de culture.
Sur une antenne internationale.
Si tu nous parlais de ta belle expérience de rédacteur en chef à RMC, notamment concernant justement la rédaction bimédia.
L'expérience RMC, c'est 2015-2018, où l'objectif était de faire de RMC, qui avait déjà un pied dans la télévision avec la diffusion de la matinale de Jean-Jacques Bourdin.
Bourdin direct.
Bourdin direct sur RMC Découverte.
Éric Zemmour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. L'épidémie de Covid flambe.
Avec des images qui illustraient les propos de la radio et le plateau télé de Jean-Jacques.
Quel grand journaliste en tout cas.
Absolument, c'est un vrai plaisir de travailler avec Jean-Jacques Bourdin, qui m'a beaucoup appris, qui c'est un vrai professionnel de la radio, un professionnel du journaliste tout court en fait.
Absolument. Je tenais à le dire pour les circonstances que nous savons. C'est important de savoir saluer le professionnalisme des hommes.
Oui, absolument. Donc RMC, l'idée c'était de faire en sorte qu'il y ait plus d'images finalement à l'antenne, faire en sorte que les journalistes de radio puissent être en capacité de produire des sujets qui soient diffusables en télévision. Donc c'était une vraie révolution pour la rédaction, ça n'a pas été facile dans un premier temps de pouvoir faire accepter cette transformation. On y est allé ensemble, on a avancé progressivement, ils ont été formés, donc la question c'était comment est-ce que tu peux faire d'un journaliste radio, ou en quelque part un journaliste qui soit capable de faire de la télé.
Et oui, car ce sont deux métiers radicalement différents, rappelons-le, absolument.
Voilà, totalement différents. Alors, pas complètement opposés, puisque ça reste fondamentalement, en tout cas dans la dimension journalistique du journalisme, mais évidemment, l'outil et l'approche n'est pas la même.
Absolument.
La grande question, c'est de savoir avec quoi un journaliste de radio va pouvoir faire son sujet, sachant que lui, il a toujours l'habitude de se balader avec un agra, caméra.
Fameux Nagra.
Et pas une caméra, en fait.
Exactement.
Avant que je n'arrive, l'idée des dirigeants, c'était de dire, ah bah tiens, on a un outil que tout le monde utilise, c'est le smartphone.
D'accord.
Qui a fait ses preuves ailleurs, dans sa capacité à pouvoir produire de l'image qui soit suffisamment correcte pour être broadcast.
De très grande qualité, absolument.
Voilà. Pourquoi n'y irions-nous pas dans cette voie?
D'accord.
Tout était à construire, en fait, David, à ce moment-là. Je suis arrivé avec une feuille blanche et on m'a dit, ben fais. Et assure-toi que les journalistes puissent faire des sujets qui soient diffusable en radio et simultanément à la télévision.
Excellent.
Donc il a fallu créer en fait un kit de tournage.
Incroyable.
Donc les fameux kits Mojo en fait. Aujourd'hui, ces kits commencent à avoir pignon sur rue dans les rédactions.
Oui, très répandu, absolument. Mais à l'époque,
c'était pas encore le cas. Donc il fallait qu'on compose.
Eh ouais. Rappelons qu'on est 9 ans en arrière quand même, hein, pratiquement.
Absolument. Et donc en fait, il fallait qu'on trouve des outils. Déjà, le smartphone, c'est un outil grand public, c'est pas un outil broadcast au sens professionnel du terme.
Bien sûr.
Nous, on avait une contrainte, c'est celle de la radio, et on pouvait pas transiger avec la qualité du son radio.
Exactement, ce fameux son, voilà.
Ce son. Et à l'époque, les outils grand public qui étaient sur le marché n'étaient pas encore totalement satisfaisants.
Y compris des plus grandes marques.
Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, c'est une avancée de l'histoire, le fait d'avoir des journalistes qui sont des journalistes Mojo. Le Mojo ne va pas tuer le métier de JRI.
Donc, il fallait travailler et progresser, je dirais presque que c'était du rock in progress, aussi bien avec la technique qui elle-même devait s'adapter en fait, parce que les fournisseurs classiques n'étaient pas ceux-là. Sans dévoiler des secrets de fabrication, on a commencé en se fournissant via Amazon notamment pour avoir certains outils.
C'est ça, comme les micros XLR par exemple, adaptables sur iPhone.
Voilà. Et donc, il fallait composer en fait le kit. Donc, trouver une carte son, le micro qui va bien, voir les micros.
Stabiliser l'image de l'iPhone.
Stabiliser l'image avec un support qui permette d'être suffisamment ergonomique.
Mini Steadicam.
Mini Steadicam, voilà. Donc, aujourd'hui, on a des images assez abouties de ce que c'est un kit de tournage Mojo. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc, il a fallu qu'on construise tout ça.
Tu avais combien de journalistes sous ton autorité à l'époque?
70, c'est à peu près une bonne trentaine ou une quarantaine de pistes.
D'accord. Ah ouais. C'était déjà une belle rédaction.
Oui, oui, oui. C'était une rédaction vraiment bien constituée, avec des gens extrêmement soucieux de leur travail.
Midi 14h, RMC.
Moi, j'ai rencontré des journalistes vraiment excellents.
Des noms. Mis à part, évidemment, Jean-Jacques Bourdin, avec lequel tu as beaucoup travaillé. Est-ce qu'il y a une ou deux autres personnes qui t'ont bien marqué?
Oui, oui. Il y avait des gens comme Céline Martelet, Stéphanie Collier, Marie Régnier.
D'accord.
Quentin Pommier, par exemple. C'est des gens, voilà, qui avaient à cœur de bien faire leur travail.
De bien faire, c'est génial.
Et qui surtout aimaient profondément et passionnément cette radio. Donc
c'est
forcément
génial.
Quand toi tu arrives avec ce projet là et que tu le portes pour la direction mais pour l'ensemble de la radio, tu dois entendre cela.
Bien sûr.
Tu dois entendre que tu as des gens qui n'ont pas envie qu'on casse leurs jouets en fait.
Alors Willy, on va un petit peu parler de la maison qui t'emploie depuis maintenant un certain nombre d'années, puisque avec le directeur de l'information du pôle Outre-mer, Laurent Cortel, que je salue très affectueusement et dont tu es l'adjoint, dirais-tu que la visibilité des Outre-mer va enfin de plus en plus dans le bon sens sur France Télévisions?
Ah mais totalement. Aujourd'hui, David, on voit beaucoup plus d'Outre-mer sur France Télévisions qu'il y a 4 ans.
Ça, c'est
et
clair.
Encore plus depuis 2 ans, depuis qu'on a mis un coup d'accélérateur avec Laurent Cortel et toute l'équipe de la visibilité. Depuis 4 ans, parce qu'il y a eu ce fameux pacte de visibilité.
C'est ça, dont nous parlerons d'ailleurs avec Cœur Outre-mer notamment.
Voilà.
Toute l'année, France Télévisions a l'esprit Outre-mer. Et encore plus, avec une programmation exceptionnelle pour avoir le cœur Outre-mer.
C'est vrai que les Outre-mer se voient mieux maintenant.
Oui, et je te dis, depuis 2019 que ce pacte a été signé, il y a 25 engagements pour faire en sorte que les Outre-mer soient valorisés et beaucoup plus présents sur les antennes de France Télévisions.
Mmh.
Il y a cette approche qualitative qui fait qu'aujourd'hui, si je te donne quelques chiffres, rien que pour l'année 2022, c'est plus de 48 millions de téléspectateurs qui ont été touchés par un programme ultramarin.
Excellent.
Voilà, et c'est près de 10 millions chaque semaine. Et ça, c'est pour info et programme. Mais ne serait-ce que pour l'info elle-même.
Ton cœur de cible, ouais.
C'est mon cœur de cible, voilà. Donc, c'est plus de 24 heures d'info qui ont été dédiées à l'Outre-mer sur France 2, sur France 3 et sur France Info en 2022.
Ça, c'est génial.
Oui, et puis, on a de la chance, en fait, d'avoir une présidente, Delphine Ernot, qui croit en l'Outre-mer.
Les Outre-mer, très bien.
Voilà, et qui nous accompagne, ainsi que son bras droit.
Stéphane Cid Bongomez,
et puis Sylvie Jongoul.
Et oui, la patronne.
Qui est notre patronne du pôle Outre-mer. Voilà. voilà, qui grâce à elle fait un travail mais acharné au quotidien pour que les Outre-mer continuent à rayonner aussi bien sur France Télévisions et au-delà.
Alors Willy, fort de ton expertise de 2 années au sein de Guadeloupe, la première en tant que rédacteur en chef, radio, télévision, internet, dirais-tu que les rédactions régionales disposent d'atouts spécifiques par rapport à celles France Télévisions nationales ?
Alors, moi ce que je veux dire, c'est que les rédactions régionales, effectivement, ont des spécificités. Ce sont des rédactions qui, par essence, sont en proximité directe avec les populations. Elles sont le reflet des populations dont elles parlent au quotidien. Donc en fait, elles ont une approche vraiment directe de l'info. Elles sont prises avec le pays, avec le territoire. Donc
avec le pouls.
Exactement.
Maryse Condé obtient le prix Nobel alternatif de littérature, prix décerné par les internautes.
Moi, je dis que les rédactions régionales, en fait, elles sont contributrices à la vitalité économique, culturelle, sociétale. C'est important et c'est un élément fort. Nos stations ultramarines, elles ont aussi cet avantage en fait de s'inscrire dans un environnement géographique régional qui est plutôt riche. Dans la Caraïbe, tu vois l'archipel qui nous entoure et qui est divers.
Et comment ?
La Guyane, par exemple, est à proximité avec le Brésil, notamment. Tu vois, donc c'est un environnement régional riche et avec lequel en fait elles partagent.
Absolument.
Elles discutent et puis elles portent d'ailleurs ce regard régional au national. Donc c'est un peu tout ça qui fait la spécificité de nos rédactions régionales.
Alors Willy, c'est l'avant-dernière question de cette première partie. Quel regard le téléspectateur Willy Brassiano a-t-il sur l'opération Cœur Outre-mer dont nous parlions tout à l'heure depuis maintenant 4 ans et quel bilan le directeur adjoint à l'information en tire-t-il ?
Écoute, un regard plutôt positif parce que en tant que téléspectateur, je suis content. Dès qu'on parle de l'Outre-mer, on se le disait tout à l'heure, je suis heureux. On a cette possibilité d'apporter un regard sur nos territoires auprès de notre public hexagonal qui ne nous connaît pas forcément, qui ne voit dans l'Outre-mer que parfois des clichés ou Ou alors, à l'époque, on ne parlait de l'Outre-mer sur les antennes que quand ça allait mal.
Quand ça sentait le roussi, exactement.
Voilà. Alors qu'aujourd'hui, grâce au travail justement de la cellule de visibilité et notamment du pacte de visibilité, on a un regard qui est beaucoup plus large sur l'Outre-mer et qui est beaucoup plus réel, qui est plus le reflet de ce que sont les Outre-mer aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui, on te dira que le regard qu'on porte sur l'Outre-mer est totalement différent. Et en tant que téléspectateur, quand cette opération arrive, c'est maintenant 10 jours où il y a une concentration d'Outre-mer à toutes les sauces, si je puis m'exprimer ainsi.
Tout à fait.
Sur des antennes. Et pourquoi à toutes les sauces ? Parce qu'en fait, c'est pas que dans les journaux, en fait.
Bien sûr, il y a des magazines.
L'Outre-mer est présent dans les magazines, dans les jeux.
J'ai adoré les derniers Échappées Belles. C'était magnifique.
Voilà, absolument.
Ça y est, je suis enfin arrivé en Martinique. Quel bonheur de se reconnecter à cette nature brute et sauvage.
On est très heureux quand on a ces rendez-vous de qualité qui donnent à entendre et à voir l'Outre-mer. Et tu vois, la dernière opération, c'est un temps d'antenne exceptionnel qui a été dédié à l'info. Rien que pour l'info, on a eu 5 heures d'info.
Ah ouais.
Comparativement à 2021, c'était 3 heures. Et puis, tu as des mobilisations qui sont sans précédent, avec notamment les régions de France 3, qui ont à elles seules consacré quasiment 13 débats et sujets sur cette opération.
C'est génial.
Et puis, les équipes du National, aujourd'hui, elles déclenchent des missions dans les territoires, comme ça a été le cas en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, pour envoyer des envoyés spéciaux là-bas.
C'est ça, c'est ça. Et ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est qu'il y a autant de sujets d'un Gaspard de Florival que des sujets dits locaux. J'aime aussi à entendre, on retrouve notre envoyée spéciale Catherine Gonnier-Cléon ou Christelle Floricourt. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on voit également nos visages.
C'est ça. En fait, ça, on le fait déjà au quotidien grâce au travail de la cellule visibilité. Mais c'est vrai que lors de l'opération Cœur Outre-mer, il y a les stations du pôle Outre-mer qui réalisent en fait des sujets spécifiquement pour ça. Tu es totalement au courant. Tu es un très bon ambassadeur, donc c'est très bien. Et il y a peut-être une chose aussi que je peux te dire par rapport à cette opération-là, c'est monter en puissance avec les chaînes partenaires que sont par exemple France 24, TV5 et même France Bleu qui nous accompagnent dans cette opération Cœur Outre-mer sur leur antenne.
Excellent.
Donc quand je te dis qu'on est heureux quand on parle de l'Outre-mer sur les antennes nationales et par extension sous les antennes du service public,
bien sûr,
ça veut dire que le boulot continue de se faire.
Bien sûr, surtout que dans le cas de France Bleu, on pourrait presque dire France Bleu Outre-mer.
Oui, absolument.
Quant aux 20h de France 2, depuis le 19 octobre 2020, plutôt Anne-Sophie Lapix ou Karine Bast?
Oh, la question piège. Très honnêtement, j'aime les deux, vraiment.
Comment il s'en sort? Mais non, mais c'est normal, je te taquine.
C'est ni une réponse de Normand, ni une pirouette. C'est juste qu'elles ont toutes les deux leur originalité, elles ont leur sensibilité.
Moi, j'adore Anso en plus, quand elle chante, quand elle danse.
Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'Auvergnat qui sans façon
Vous avez reconnu ce tube du chanteur et poète Georges Brassens?
Et évidemment, je suis très fier de savoir que Karine, martiniquaise, soit aux commandes du 20h, même en tant que joker. Karine apporte sa fraîcheur, son regard sur l'actualité, et je pense que le public le lui rend bien,
exactement,
puisqu'il est présent à chacun de ses rendez-vous.
Exactement.
Il est 20h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition.
On lui fait un gros bisou, ainsi qu'à Anne-Sophie.
On les embrasse toutes les deux.
Sans oublier l'ensemble de l'équipe des présentateurs et présentatrices du groupe France Télévisions, y compris dans les Outre-mer. Merci pour cette très belle première partie, mon cher Willy. Si tu le veux bien, on va maintenant passer à tes goûts et tes souvenirs télévisuels. En es-tu d'accord ?
Absolument, on y va.
Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement ?
J'ai une série que j'ai bien aimée, c'était V.
Monsieur aimait Diana et Lydia.
J'aimais Diana, McDonovan,
Donovan, Julie.
Tout ça, c'est de votre faute, Diana. Si vous ne l'aviez pas empoisonnée, nous n'en serions pas là.
Il n'est plus temps de faire des récriminations.
Et tous les autres.
Et tous les autres, et bien sûr, le fameux Willy.
Et Willy, absolument.
Le fameux Freddy Krueger.
Absolument.
Qui était si gentil à l'époque. V.
Voilà.
Rassure-moi, à l'époque, tu ne t'es pas risqué à essayer d'avaler une souris.
Non. Non, non. Mais ceci dit, dans les cours de récré, c'était souvent un grand moment de rigolade quand on les imitait, en fait.
Ah bah, tu m'étonnes. Est-ce que tu te rappelles le surnom d'Elisabeth, la jolie blonde convoitée par les visiteurs?
Ah, son surnom. Elisabeth, c'était l'enfant stellaire.
Bravo, c'est un vrai fan, l'enfant stellaire.
Je te dis, cette série m'a marqué.
Même question Willy, mais pour les dessins animés.
Alors, pour les dessins animés, il y en a eu plusieurs.
Ouais.
Bon, évidemment Goldorak.
Coucou Dorothée.
Les cités d'or.
Bien sûr, les mystérieuses cités d'or, excellent.
T'es peut-être trompé de chemin, tout simplement, avec tous ces détours.
Je vous assure, j'y comprends plus rien.
Ça alors, vraiment, c'est le bouquet. Si maintenant tu sais plus où se trouve ton propre village.
Oh, je t'en prie, fais-moi plaisir, Tao. Arrête de rouspéter.
Bah, c'est toute mon enfance, en fait, tout ça. Hein. Enfant du soleil qui parcourt la terre de ciel, cherche ton chemin.
C'est ta vie, c'est ton destin.
Voilà.
Estébatia, Tao, les cités d'or. Ben, tu t'en sors très bien.
Écoute, je crois que le cerveau n'oublie pas.
Exactement, je suis sûr que tout comme moi, tu avais peur de Calmec.
Oh oui.
Il faisait peur.
Il faisait peur, oui.
Alors tiens, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé?
Alors, que j'ai beaucoup kiffé, il s'appelait David Diomandé.
Oh non, tu vas me faire pleurer.
Oui. Ben David, c'est vrai que quand tu étais animateur télé à la Martinique, c'était déjà des moments de télé totalement innovants sur les antennes.
Merci Madame Diomandé. Merci à toi maman. Je vous présente ma mère.
Et on rêvait un peu tous d'être David Diomandé, hein, je te le cache pas.
Oh my god.
Non, vraiment, et je dis pas ça parce qu'on se parle en ce moment, mais oui, tu as été inspirant, pour moi notamment.
Je suis très touché.
Vraiment, donc voilà, sache-le.
Je suis très touché, d'autant que tu te doutes bien que depuis la perte de ma vision, ça me touche d'autant plus. Mm. Mais je vais donc tâcher de reposer ma question, tout en gardant évidemment cette première partie de réponse qui m'honore. Quel animateur national kiffes-tu le plus actuellement, ou as-tu le plus kiffé par le passé, auquel cas?
National, je ne sais pas. Il n'y en a pas vraiment un qui...
Bon bah alors David Diomandé, comme ça ils vont peut-être finir par m'embaucher. Qu'est-ce que je te dise, moi? Il y a quand même bien un animateur qui a marqué Willy en plus de 45 ans, rassure-moi.
Ouais.
Bon, très bien. Écoute, je n'insisterai pas, mais je suis d'autant plus honoré par ta réponse, sincèrement.
Non, vraiment. Autant sur la dimension journalistique, il n'y a pas de problème.
C'est la prochaine question.
Pour l'animation, non. Non.
Je ne serais pas venu pour rien aujourd'hui. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori?
Marquant, pareil, pour moi, bah, c'était PPDA.
D'accord.
Vraiment, c'est quelqu'un qui a marqué le journalisme.
Bien sûr.
Puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant.
C'était une référence.
Exactement. Très bien. Et enfin, tout genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps.
Club Dorothée.
Non, parce que pour tout te dire, j'ai essayé de te pousser vers elle, au moins en ce qui concernait justement l'animateur ou animatrice. Donc au moins, l'honneur est sauf, car en parlant du Club Dorothée, tu parles de ma copine quand même.
Je pourrais pas te dire Dorothée, dans la mesure, pour moi, le Club Dorothée, c'était une équipe, une bande, évidemment incarnée par Dorothée, qui était l'animatrice principale.
Merci Denis, c'est gentil. Hein.
Merci Denis, voilà. En effet, je croise les doigts.
Tu vois, quand j'ai eu la chance de pouvoir les interroger quand j'avais 9 ou 10 ans, j'ai dit à Dorothée, est-ce que je peux faire une interview? Elle a dit oui tout de suite et elle m'a dit, attends, j'appelle les copains.
Unis comme les 5 doigts de la main.
Exactement, et ils étaient tous là. Et donc pour moi, c'est ça que ça symbolise, le Club Dorothée, cette bande de copains.
Club Dorothée, eh ben, c'est une très belle réponse. Willy Brasciano, merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
Merci infiniment David, merci Naya également pour l'entremise. Sans toi, je crois que ce soir, j'aurais pas eu cette chance de converser avec David et de passer un si bon moment. Merci à tous les deux.
Bienvenue dans les jeux de vainqueurs. France 2 reste à mes yeux la championne des chaînes pour ce qui concerne les jeux de mots, au sens propre du terme, à la télévision. Or, il y a une quinzaine d'années, le fort sympathique Patrick Sabatier prenait les commandes de l'un d'entre eux pour plus d'un septennat, à charge pour lui de faire ses candidats et leurs partenaires personnalités découvrir le bon mot de passe. Million Dollar Password, tel est le nom original de ce programme américain de CBS, créé en 1961 par Bob Stewart et initialement animé chez nous par Alan Ludden, puis dans son second cycle par Regis Philbin.
Welcome to Million Dollar Password. We have two contestants, two fantastic celebrities, all searching for the password to unlock $1 million.
Donc, pour ce qui est de la France, ce sont respectivement Patrick Sabatier, puis la géniale Laurence Boccolini, le temps d'une saison, qui de façon hebdomadaire ou quotidienne, égayèrent l'accès des téléspectateurs de la chaîne Premium du service public.
Et bien voilà, nouveau numéro de mot de passe, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir.
Ainsi, lors de chaque émission, et généralement en 52 minutes, deux candidats et deux personnalités se retrouvaient confrontés aux fameux mots indices, leur permettant de trouver les mots de passe.
On va tout de suite accueillir une nouvelle partie de mots de passe. Élodie Gossoin et Bruno Robles.
En première partie de jeu, 8 manches. Chaque candidat faisant en effet jouer chacune des célébrités, la réciprocité étant de mise. Il s'agissait, dans le très court laps de 30 secondes, de faire chaque fois découvrir un maximum de mots de passe et d'engranger un nombre de points supérieur à celui de son adversaire afin d'accéder à la finale dotée de 100 000 euros. Dans mes souvenirs, les paliers de celle-ci allaient de 1 000 à 100 000 euros.
Pour se faire deviner et permettre à nos deux candidats de gagner la somme de 100 000 euros.
À raison de 5 mots à faire découvrir par palier, plus l'on montait dans l'échelle des gains, plus le nombre de mots que l'on pouvait s'offrir le luxe de ne pas trouver diminuait. Il fallait donc trouver 5 mots sur 10 au premier palier, 5 mots sur 9 au second, etc. Et évidemment, 5 mots sur 5 à celui des 100 000 euros.
10 000 euros, 5 mots sur 6, une seule erreur possible.
Autant vous dire que je n'en aurais pour ma part jamais vu remporter la somme maximale. Mais en même temps, comme diraient certains, je n'en vis tous les épisodes. Dans ce jeu, tout était basé sur sa gestion du stress et du temps, ainsi que sur sa complicité avec son ou sa partenaire.
Franchement, on a eu une bonne partie, hein. C'était très agréable. Pour vous, Annabelle, pour vous, Lysiane.
La musique de Louis Flynn servait impeccablement un décor de circonstance, tout en sobriété, afin d'entretenir la tension sur le plateau. A tel point que l'on vit bien souvent des candidats échouer en finale et au final, et repartir les mains vides, car ayant choisi de poursuivre l'aventure du palier suivant, avec ainsi le risque de tout perdre. Un jeu aussi simple qu'efficace, sur lequel Patrick Sabatier ne démérita nullement son septennat durant, tout autant qu'une Laurence Boccolini, également rompue à l'exercice.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus à 10h35 pour jouer avec ceux qui peuplent notre belle langue française, les mots.
Les téléspectateurs avaient quant à eux la possibilité, depuis leur fauteuil et munis de leur téléphone portable, de remporter jusqu'à 2500 euros en répondant à une question de l'animateur sur le même principe que celui du jeu en plateau. Mot de passe, un jeu dément qui avait la classe. La semaine prochaine, dans les jeux de vainqueurs, zone rouge. De Depuis 75 ans environ, la télévision française toujours donna la chance aux chansons et mit les musiques au cœur de ses génériques. Du petit conservatoire de Mireille à The Voice, si la voix porte dans la petite lucarne, les notes également en cohorte y ont tout leur charme. Déportés au petit écran, DLP Vacances fait ses gammes et vous raconte la rencontre entre des musiques et des téléspectateurs ayant à cœur d'associer leurs émissions à des émotions. Si, le 26 septembre 1985, l'on avait dit à Michel Colucci, alias Coluche, que presque 38 ans plus tard, son extraordinaire idée palliative de l'incompétence des pouvoirs publics serait encore indispensable, jamais il ne l'eût cru. Et si l'on avait dit à son ami Jean-Jacques Goldman que son hymne, originellement enregistré en janvier 1986 pour et s'intitulant « Les Restos du cœur » et sorti en plein hiver le 24 février de la même année, serait scandé sur toutes les plus grandes scènes de France et chaque année sur TF1 depuis ses mêmes 38 ans, il en fut probablement demeuré dubitatif. Musique Zacker est donc cette semaine tristement fière de rendre hommage à l'une des plus belles pages caritatives d'une union associative et artistique, le générique des Enfoirés. Et pourtant, la belle histoire se poursuit depuis le premier enregistrement au studio Gang par le premier gang de l'aventure constitué de Coluche, Nathalie Baye, Yves Montand, Catherine Deneuve, Michel Platini, Michel Drucker, coucou notre Michel, et évidemment Jean-Jacques Goldman en personne. 4 minutes 17 et 533 900 exemplaires écoulés plus tard, source Wikipédia France, cet hymne à l'amour, signé de l'un de nos artistes les plus importants de ces 40 dernières années, continue de traverser les générations et génère actions toujours aussi cruciales pour des millions de Français que la faim tenaille. Produit à l'époque par Claude Martinez et Paul Lederman, ce titre aura fait bien du chemin depuis le tout premier concert des Enfoirés sur TF1 le 26 janvier 1986 et les dizaines d'autres qui depuis s'en suivirent. Le dernier en date, le 3 mars dernier, s'intitulait « Enfoirés, un jour, toujours ». Et même si depuis désormais 37 ans, je cite, « Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid », fin de citation, merci à cet enfoiré de Coluche et son cœur gros comme ça pour son idée de génie et à ce génie de Goldman pour son hymne humanitaire autant qu'humaniste à la portée planétaire, dont plus d'un million de personnes, dont la moitié ayant moins de 25 ans et 110 000 bébés, sont encore, malheureusement, heureusement bénéficiaires. La semaine prochaine, dans Musique Zacker et dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, le générique de la méthode Coé. L'info TV de la semaine concerne la dernière présentation médiatique en date du Mariage 2023, France Télévisions, Festival de Cannes. Une conférence de presse démarrée à 11h sur les Champs-Élysées le 13 avril dernier et assurée par la toute nouvelle présidente du festival, Iris Knobloch, ayant donc succédé à l'immense Pierre Lescure, ainsi que Thierry Frémaux, son légendaire délégué général. Rendez-vous est ainsi pris du 16 au 27 mai prochain sur la Croisette pour les festivaliers et sur les antennes de France Télévisions en général et sur celles de France 2 en particulier afin de pleinement vivre une 76e édition promettant d'être riche en émotions. Ce, entre les présences notoires des mythiques Martin Scorsese, probablement d'ailleurs avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, Ken Loach ou Harrison, Indiana Jones, Ford. Et oui, cinquième volet en 40 ans pour Indiana Jones et le cadran de la destinée. De Cannes première à Un certain regard, via les séances de minuit et celles spéciales, les films hors compétition et évidemment la sélection officielle, Cannes 2023 assurera incontestablement le show avec Jeanne Dubarry de la surdouée Maïwenn Lebesgue en ouverture sous la présidence du réalisateur suédois Ruben Östlund. Catherine Deneuve, quintessence du cinéma français, en icône visuelle d'un septième art planétaire, élémentaire.
Dieu mandait le programme.
Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce lundi 1er mai dès 21h10 sur TF1 « Pourquoi je vis ?», l'adaptation de l'existence artistique de Grégory Lemarchal, mise en image par Laurent Tuel. Subtil mélange des ouvrages de Laurence et Leslie Lemarchal, mère et sœur de Greg, intitulé « Sous ton regard » et « Mon frère l'artiste ». Avec Michael Lumière, Odile Vuillemin et Arnaud Ducret. Nous en profitons, Naya et moi, pour vous informer du fait que Laurence Lemarchal sera notre invité le vendredi 12 mai prochain dans une interview intitulée « Grégory Lemarchal, il aurait eu 40 ans ».
Bonjour, c'est Laurence Lemarchal. Bienvenue dans « Diomandé le programme ».
Ce mardi 2, sur France 5, François Pomès met à l'odeur l'un de nos plus célèbres fromages de France et la commune lui ayant donné son nom, Camembert. Le camembert nous ouvre sa boîte. J'avais vraiment envie d'en faire tout un fromage. Et ce vendredi 5, sur France 3, nous retrouverons Cyril Ferraud en compagnie de Mariva Galantère, Vincent Niclot, Caroline Margeridon et Laurent Luyat, coucou Laurent, pour le grand concours des régions « Quelle sera la meilleure danse folklorique de France 2023 ?» Alors, on danse ? Petit clin d'œil enfin au légendaire Minicum, qui le 31 mars dernier soufflèrent les 30 bougies de leur naissance sur France 3. Une idée du tonnerre que celle de Patrice Levallois et Arnold Boiseau à l'époque, que ces marionnettes personnalités, inspirées de leurs aînés des guignols de l'info, mais destinées à un plus jeune public. Et c'est évidemment le talentueux Alain Duverne qui fut à la manœuvre de la création des personnages cultes de Josie, Nag ou Vanessa, entre autres, affectueusement surnommés tous autant qu'ils étaient, les MNK. Après une dizaine d'années de diffusion, jusqu'au 31 mars 2002, les MNK donc effectueront un mini-retour fracassant sur France 4 le 11 décembre 2017 et ce jusqu'au 27 août 2021. Le générique de Rodi Julienne et de Philippe Almosino participa indubitablement du succès du programme, à l'instar de leurs nombreux tubes, dont le fameux « Mélissa, non, ne pleure pas, wow, 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 car pour moi, tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. » Heureux 30e anniversaire, les Minicum. Vous étiez tellement plus attractifs que moult de vos collègues de chair indécents, Maxi Con. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre. Heureux anniversaire ce lundi 24, Christine Ockrent. À l'orée des 80 printemps de l'autre reine de Bruxelles, la princesse master de l'art habile, de l'info, c'est elle. John Dummel, quand Talpa son sens des affaires, reste à briller dans l'une de ses télé-réalités incendiaires. Et Yvette Vetti Théodore, alias Maman. De ma première radio à l'âge de 10 ans à ma première télé le 21 mai 1993, tu es le potomitan de mon parcours à la genèse. 80 fois merci de ta droiture et auprès de nous trois de tes encouragements, ainsi que de ta vie magnifique d'aventure non encore finie, adorable maman. Je t'aime, maman chérie. On t'embrasse.
Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Maman vous aime tous les trois.
Ce mardi 25, Karine Jalabert-Gourcuff. Depuis 18 ans en cathodique, carrière des plus stratosphériques. Et Frédéric Dubuis, aucune nostalgie quant à sa décision de vivre en Polynésie française, d'où il dirige le groupe Energy Tahiti de façon aussi subtile qu'à sa période, directeur des antennes TV RFO, martiniquaise. On t'embrasse, Fred. Ce mercredi 26, Patrick Chêne. Des sports à l'info, ses scores jamais ne firent défaut. Didier Gustin. S'il joue toujours les cachotiers avec Thierry Beccaro, au bar de l'humour, le duc de ce dernier, et ce pour notre plus grand bonheur, ne s'y tient à carreau. Et Sébastien Follin, avec son premier documentaire « Jusqu'à quand, une révolution créole », monsieur le nouveau vice-président de l'agence du film de La Réunion ne sera passé par le festival Enfants des Ciné à Caen pour enrichir de l'île Bourbon l'auréole. Ce jeudi 27, Anne-Charlotte Pontabry. Sous le soleil, la classe mannequin naturelle pour le plus délicieux cachou de l'audiovisuel. Ce vendredi 28, Gérard Majax, longtemps Magie Stral.
Bertrand Renard, si des chiffres l'un des maîtres, injustement son compte fut bon le temps d'une lettre. Sébastien Coé, parrain du second anniversaire de Durmander le programme le week-end du 17 au 19 mars dernier, pour ce qui est de l'énergie de la déconne, est toujours le premier.
Bonjour, c'est Sébastien Coé, bienvenue dans Durmander le programme.
Et Alix Poisson, poisson d'avril peut-être, mais du court-métrage 1432, la voix off de son maître. Ce samedi 29, Robert Namias, de l'info de TF1, un nom ayant de la classe, dont les fils Fabien et Nicolas perpétuent la dynastie dans la place. Et Anne-Sophie Lapix, qu'elle agace l'exécutif, la rend hautement sympathique et rappelle sa grande époque Dimanche Plus à la politique, alors tellement anti-académique. Et ce dimanche 30, Jackie Jakubowicz. 75 fois merci Jackie, notamment pour Platine 45, Récréa 2, Club Dorothée et Les Enfants du Rock. Nous avons largement de notre Jackie national, délires en stock. Et Nicolas Hulot. Sa fondation pour la nature et l'homme prévaut sur tout le reste, en somme. À vos années télévisuelles exceptionnelles et à Ushuaïa, Opération Okavango et Ushuaïa Nature, votre véritable legs universel. Une pensée enfin pour les cultissimes Georges Decaune, Patrick Bricard, Jean Rochefort et Philippe Vecchi, qui étaient nés respectivement les 26 avril 1919 et 1940, 29 avril 1930 et 30 avril 1964. Let's do it. La semaine prochaine, Benjamin Ben Cap, brillant réalisateur autodidacte dont l'éminent paternel Jean-Louis, de la décision d'en faire son métier il y a plus de 25 ans pris acte, sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à Childéric Muller, animateur-producteur culte des années 80-90, enfant du rock dans tous les sens du terme, longtemps le chéri-chéri de la jeunesse française. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Durmander le programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Durmander le programme. Tout comme son autre bébé, Drucker, à l'ouvrage, DLP Vacances est produit par Cronzon Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Merci à Do, Azoulay, Berda et à TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Letraine pour son adaptation magique et mythique. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble zappons le creux au profit de la crue. Vive la foire de Paris depuis ce jeudi 27 avril et jusqu'au 8 mai prochain. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai Bruno Carrette?
On essaie de le faire autrement.
DLP, 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 DLP Vacances.
Chronozone, le temps immédiat.
Bonjour à tous, c'est Ben Cap, ancien assistant réalisateur sur Nulle Part Ailleurs, Love Story, Star Academy, actuellement réalisateur pour Culture Box l'émission, Hit List, le nouveau jeu d'M6, Duel en famille et les 12 coups de midi. Rendez-vous le 5 mai avec Naya et David pour DLP Vacances. Alors n'oubliez pas, Durmander le programme spécial vacances avec Ben Cap, c'est le 5 mai prochain sur vos antennes.
Merci d'avoir apprécié Durmander le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.